Quel plaisir pour moi, vraiment un honneur vraiment pour moi de me tenir ici devant le Seigneur, mais devant vous ici à son église à Boisvillers. Ça faisait longtemps que j'entendais parler de l'église de Boisvillers, notamment par plusieurs personnes que je connais déjà dans l'assemblée, donc Clémentine, Francesco, Camille. Mais j'avais entendu, mais non, j'ai vu et je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux. Alors je me présente, comme Pascal a dit, je m'appelle David. David Bondo, j'ai 25 ans, je suis étudiant à l'école publique au CTS à Bruxelles, je suis en dernière année, mais j'ai grandi à Jean-Blou, donc je suis aussi de la province de Namur. Je suis de la province de Namur et j'en suis fier. Alors je suis donc membre de l'église La Pierre Vivante de Jean-Blou, qui est aussi une église sœur en fait, membre également des Assemblées de Dieu de Belgique. Comme tu l'as dit, mon père, on est dans une situation un peu de transition dans notre église, dans le sens où mon père a été pasteur pendant plus de 20 ans maintenant. Dieu l'a rappelé dans son église mère à Kinshasa, où il s'occupe d'une grosse assemblée, mais il reste encore pasteur de Jean-Blou en attendant. Donc, c'est en transition, et donc je me permets de vous remettre ces salutations ainsi que les salutations de toute l'église. Alors merci Pascal en tout cas pour l'invitation, et ainsi que aux responsables de l'église. C'est vraiment un honneur pour moi, parce que c'est pas tout le monde qui aurait donné la parole à un jeune de 25 ans le dimanche matin, et j'en suis vraiment, mais vraiment reconnaissant. Je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Donc, je suis vraiment encouragé de venir ici. Comme je vous l'ai dit, je suis de la province de Namur, et j'ai vraiment à cœur notre région, donc le grand Namurois. Je suis vraiment heureux de voir que un peu partout, des gens répondent à l'appel du Seigneur pour se lever, pour faire briller sa lumière. Et on sait combien combien cette région en a besoin, n'est-ce pas? Cette région en a vraiment besoin. Mais je suis certain que Dieu a un plan, un projet, et il n'y a pas de hasard. Et c'est pas un hasard si, par exemple, ça va faire la deuxième année qu'on organise Chrétien en fait à Namur. C'est pas un hasard. Je crois qu'il y a vraiment un impact spirituel. C'est pas un hasard si aussi ça fait des années maintenant qu'on organise la convention de jeunesse, la CJ à Godin. Donc, je crois vraiment qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu pour nous ici dans la province de Namur. Amen. Amen. Vraiment. Et je suis en préparant ma prédication, je me suis rendu sur le site du CACP. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que le CACP. Donc c'est le conseil administratif du culte protestant évangélique, et je voulais voir un peu combien d'églises évangéliques enregistrées il y avait dans le Namurois. Alors est-ce que vous avez une idée à peu près combien entre dans la province de Namur? Une quinzaine? Moi j'aurais dit 15 aussi. Eh ben, selon le site, nous sommes à 26 églises enregistrées. Franchement, j'ai dit gloire à Dieu parce que j'aurais donné beaucoup moins. Mais oui, gloire à Dieu. Et juste à titre de comparaison, il y en a 9 dans la province du Luxembourg. Il faut vraiment prier pour la province du Luxembourg. Mais on est content parce qu'il y a des ministères comme Espoir Wallonie avec le pasteur Costanza qui œuvre vraiment. Il y a le Brabant Wallon avec 27 églises. Liège avec 63. Le Hainaut avec 145, ça c'est des églises enregistrées, il y en a peut-être sûrement d'autres en plus. Et puis il y a Bruxelles avec ses 186 enregistrées. Bref, je ne veux pas regarder aux chiffres, parce que si on regarde aux chiffres, on pourrait être un peu découragé, n'est-ce pas? Mais je demeure confiant, car je sais que notre Dieu a vraiment, comme je l'ai dit, des plans pour la région de Namur. Amen. Et il n'est pas inactif. Vous savez, quand on regarde l'église en Europe, on pourrait croire que le royaume de Dieu régresse. Non, le royaume ne régresse jamais. Il avance. Et quand j'entends les témoignages, vos témoignages en Norvège, et même les témoignages que j'entends toutes les semaines de ce qui se passe ici en Europe, je me dis non, le royaume de Dieu avance vraiment. Amen. Et il avance ici dans la province de Namur. Même si nous ne voyons pas, nous savons que notre Dieu est un Dieu actif et qui fait avancer et propage sa lumière et il travaille. Et même si on ne voit pas, nous savons qu'il est actif. Amen. Et j'aimerais nous encourager, encourager cette assemblée, nous encourager nous les, je veux dire, les Namurois, en lisant dans 2 Corinthiens 4, le verset 17 à 18, alors je vais lire dans la version second 21. 2 Corinthiens 4, 17 à 18. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Donc, regardons aux réalités invisibles. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible et si nous pouvions les voir, nous rendrons gloire à Dieu encore et encore. Donc, ne nous décourageons pas pour l'œuvre de Dieu, vraiment. Et continuons à prier pour nos villes, nos écoles, nos collègues, nos frères, nos sœurs, nos familles, sans cesse. Et 2018 est là et nous sommes convaincus que Jésus sauve encore, n'est-ce pas? Amen. Jésus délivre encore, Jésus transforme encore et il restaure encore. Amen. Et je prie vraiment qu'on puisse expérimenter ça et je suis confiant qu'on va encore expérimenter ça dans nos vies en 2018. Alors, c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur la Belgique. Je ne sais pas si vous avez pu déjà discuter avec des gens en dehors dans les milieux chrétiens. J'ai déjà entendu des gens me dire que la Belgique, c'est un peu le cimetière des missionnaires. Le cimetière des missionnaires, c'était violent d'entendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, mais la Belgique, c'est difficile, c'est compliqué, on nous enferme de plus en plus, nos valeurs sont cadenassées, les gens ne croient plus, ils rejettent la religion. Mais oui, ils rejettent la religion, mais ils n'ont pas besoin de religion, ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus, ils ont besoin qu'on leur prêche Jésus, qu'on leur montre Jésus, qu'ils vivent une rencontre avec Jésus. Alors, n'oublions pas qui nous sommes les enfants du roi. Nous sommes les enfants du roi des rois. Et comme la parole déclare en Romains 8, 11, le même esprit qui a ressuscité Christ, a fait de nous sa demeure. Donc, ce que les miracles, les œuvres, le message que Jésus a prêché, nous pouvons aussi le prêcher et voir le même résultat, car le même esprit, Paul insiste en disant que le même esprit vit en nous. Qu'on soit vraiment encouragé par cela. Alors, vraiment, qu'est-ce qui pourrait nous faire trembler? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. L'Éternel lui-même combat. Et comme je l'ai dit souvent, on pourrait croire que Dieu est assis sur son trône et qu'il ne bouge pas. Non. Oui, il est assis sur son trône, mais il est actif. Il est actif et il répand sa lumière. Et je crois et je prie vraiment et je vois une génération vraiment qui proclame et qui répand la lumière de Dieu dans ce pays. Et j'en suis vraiment édifié. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Alors, parce que il ne faut pas être devin pour constater que notre monde est vraiment plongé dans une obscurité morale et spirituelle. Chaque jour, on entend des choses abominables, des choses qui cassent le moral. On entend des mensonges qu'on devrait accepter comme vérité. J'ai une petite soeur de 13 ans et parfois quand j'entends ce qu'on peut lui enseigner à l'école, ce qu'elle peut entendre, que ce soit à la télé ou même sur les réseaux sociaux, j'ai de quoi être inquiet. Il y a de quoi être inquiet. Et l'Église n'est pas épargnée par ça. L'Église n'est pas épargnée par ça. Je parlais avec un ami pasteur hier encore et il m'expliquait par quoi sa famille passait et un mot revenait, un thème revenait, c'était burn-out, dépression. Donc, mon message va tourner vraiment sur ça, autour de l'importance de demeurer en Jésus. 2018, lui seul est vraiment notre sécurité. Mais vraiment, de plus en plus, on va le réaliser. Jésus est vraiment notre seule sécurité dans ce monde. Et il est important de se rappeler qu'en lui est la paix. En lui est la joie, en lui est la restauration, en lui est le triomphe. Donc, J'aimerais lire ce verset dans 2 Corinthiens 2, 14, qui nous dit: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Alors, voilà, mon message de ce matin va tourner autour du thème d'être vainqueur en Christ. Vainqueur en Christ. Amen. Vous croyez qu'en étant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être vainqueurs? Nous marchons dans la victoire. Amen. Nous marchons dans la victoire. Alors, vous savez pourquoi ce dimanche est si spécial? Ah, ouais. Pour moi, oui, c'est très spécial parce que j'ai déjà partagé la parole, mais c'est la première fois que je partage un culte le dimanche, donc je ne l'oublierai pas. Mais c'est pas cela que je voulais mettre en valeur, c'est que c'est tout simplement le premier dimanche de l'année 2018. Ah oui, donc c'est quand même quelque chose de particulier, ne l'oublions pas. Donc permettez-moi de vous souhaiter le meilleur, et toutes les bénédictions de Dieu, tout le meilleur. Alors j'espère que vous avez des grandes et belles attentes pour 2018. Si c'est pas le cas, on peut toujours prier pour vous, hein, y a pas de problème. Mais tout en priant, tout en vous souhaitant ça pour vos vies, je suis conscient que les problèmes non résolus de 2017 ne se sont pas évaporés le 1er janvier à minuit, n'est-ce pas? Les factures non payées ne se sont pas évaporées à minuit. Malheureusement, on aimerait tellement que ce soit ainsi, n'est-ce pas? Que boum, hop, page blanche. Non, la vie continue et comme Charles Rimbaud a dit, la vie n'est pas un fleuve tranquille, c'est une montagne à gravir, n'est-ce pas? Et les soucis que nous avons peut-être eu en 2017 nous ont sûrement accompagnés. En tout cas, les soucis non réglés nous ont sûrement accompagnés encore dans 2018. Mais je ne veux pas être pessimiste, parce que cette année 2018, ça va être une année de joie, de grands moments, de mariage. Camille, elle n'est pas là. De diplôme, de fiançailles, mais aussi, il y aura son lot de doutes, n'est-ce pas? Son lot de questions, d'échecs, peut-être, de peines, de larmes. Cependant, ce qu'on peut être sûr, n'est-ce pas? Ce qu'on peut être sûr, c'est que dans toutes ces situations, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu dans nos oasis, Dieu reste Dieu dans notre désert. Il reste Dieu quand nous sommes au sommet, il reste Dieu quand nous sommes dans la vallée. Il reste Dieu assis sur son trône. Comme là, il y a ce passage dans la Bible que même lors du déluge, Dieu était assis sur son trône. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, c'est aussi grand soit-il, et même quand nous parlons de sa grandeur, nous ne réalisons pas de quoi on parle, parce que ça nous dépasse. Aussi grand soit-il, aussi proche il est de nous. Aussi proche il est de nous. Je suis toujours émerveillé de faire un dézoom comme ça de la terre et de reculer. On voit la terre. Et déjà, vous savez, quand on est en avion, on réalise qu'on n'est rien. On est petit. Alors, on passe notre terre, on passe notre galaxie et on remonte et on se dit: waouh, Seigneur, tu es grand. Comme le chant le dit, l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. N'est-ce pas? Et pourtant, ce grand Dieu-là est proche de nous. Et il s'approche de nous. Et même dans la vallée des larmes, il est là. Il est là. Notre Dieu est un Dieu de proximité. Et j'aimerais nous encourager, nous dire que dans toutes les situations par lesquelles on pourra passer en 2018, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas. Je ne peux pas nous garantir qu'il n'y aura pas des moments difficiles. Vous savez, on espère chaque fois. Et c'est bien. Mais comme je vais le développer dans mon message, il y a des situations parfois que la vie qui sont pas inexplicables, mais qu'on a du mal à comprendre. Janvier 2011, dans notre église à Jean-Blou, on a une sœur qui... un jeune couple marié depuis 4 ans, donc elle est enceinte, elle va accoucher, voilà, la grossesse se passe bien, on est heureux, le dimanche, je me rappellerai toujours, Le dimanche, on annonce que la sœur a accouché. Alors, et voilà, etc. On est content, on applaudit, on est heureux. On est heureux. On félicite le papa. Mardi, donc j'étais, comme je vous ai dit, j'ai grandi à Jean-Blou, j'étais à l'école, j'étais à la Latine Royale de Jean-Blou. Et mardi, après l'école, je rentre à la maison. Et là, vous savez, nous les enfants, les parents savent percevoir quand il y a quelque chose qui ne va pas chez les enfants, mais les enfants savent aussi percevoir quand quelque chose ne va pas. Je rentre à la maison, une ambiance que j'ai dit, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai rarement vu ça dans ma maison. Sans ma mère, mon père, déjà ils sont là, ils ne se parlent pas. Qu'est-ce qui se passe? J'attends 10 minutes, je dis, maman, il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit, ouais, c'est Nathalie, ça ne va pas. Comment ça, ça ne va pas? Non, ça ne va pas, etc. Et là, j'imagine déjà le pire. Je monte dans ma chambre, j'éclate en sanglots parce que c'est une personne avec qui j'étais assez proche. Et de son mari aussi, je dis, mais oh, Seigneur, fais quelque chose, etc. Donc, on lance une chaîne de prière, etc. Le lendemain, on apprend que Nathalie est partie. Nathalie est partie. 29 ans. Premier enfant. En fait, il y a eu des complications à l'accouchement qui ont fait qu'elle a fait 3 arrêts cardiaques. Et elle est partie. Elle est partie. C'était janvier, début d'année. On n'aurait jamais imaginé démarrer l'année comme ça. C'était terrible. Et dans ce moment-là, on se dit pourquoi? Grâce soit rendue à Dieu, la petite a survécu. Et la petite est en très bonne santé. Elle est encore là. Mais il y a des circonstances. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est que il y a des circonstances de la vie parfois qu'on a du mal à saisir. Et on se retourne vers Dieu, on dit, Seigneur, pourquoi tu permets les choses comme ça? Et on a eu vraiment un temps de restauration de la part du Seigneur. On a vu son mari être vraiment, je vous assure, être porté par le Seigneur. On l'enterre le samedi suivant. Et le dimanche, on le voit, son mari, il est là, il est dans le groupe de louanges et il adore son Dieu. Il n'y avait pas plus fort message de réconfort, de voir Dieu le soutenir dans ce moment-là d'épreuve pour l'Église. Et cette épreuve a été un enseignement pour nous, de nous dire qu'il y a des choses qu'on ne comprendra pas dans la vie, mais Dieu reste Dieu, il est souverain et il connaît son plan et sait ce qu'il fait. Et cette petite-là, moi je me suis posé des questions et Dieu m'a répondu avec le psaume 139 en disant, tu vois cet enfant, je connais ses jours, je sais, j'ai des projets pour elle. Toi tu ne comprends pas, mais j'ai établi tous ces jours de sa vie. Fais-moi confiance. Donc faisons confiance en 2018 à Dieu, peu importe ce qui arrivera. Le psaume 84 dit, heureux ceux qui se confient en toi et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Heureux ceux qui se confient en toi. On cherche souvent les recettes du bonheur, mais le vrai bonheur se trouve dans la confiance en l'Éternel. Amen. Pas dans une confiance on se dit que tout ira bien tous les jours. Non, dans une confiance en disant que l'Éternel marche avec moi, que dans les bons comme dans les mauvais moments. Et surtout dans les mauvais moments, je ressens sa présence, je ressens sa main sur mon épaule. Amen. Alors, même Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre. Alors Jésus, sur terre, il était pleinement homme, pleinement Dieu, n'est-ce pas? Mais lui aussi n'a pas échappé à des moments plus compliqués. Il a eu des moments de joie. On voit que Jésus a eu des moments, certains, je lisais parfois un article, je ne sais plus sur quel forum à l'époque, qui disait, ouais, mais la Bible ne dit pas que Jésus a rigolé. Mais comment ça? Même si c'est pas écrit, vous pensez vraiment que Jésus était un personnage risible? Non, je suis sûr que Jésus a eu des moments, et même dans la Bible, que ce soit aux noces du Cana ou dans d'autres situations, Jésus a eu des moments de joie sur la terre, n'est-ce pas? mais il a eu aussi des moments de souffrance. Et il n'y a pas échappé, et il n'a pas essayé d'y échapper. Dans le livre d'Ésaïe, on l'écrit, il est écrit, et on l'appelle comment ? L'homme de douleur. L'homme de douleur habitué à la souffrance. C'est un titre assez fort pour le sauveur du monde, le roi des cieux venu sur terre. Alors, j'aimerais lire un texte dans Jean 16, 33. Et c'est un texte qui parle des derniers instants du Christ avant d'accomplir le plus beau geste que l'humanité ait connu, la mort à la croix. Et donc c'est le dernier souper. Et je vais lire à partir de Jean 16, mais ça commence même avant dans les deux autres chapitres. On voit que Jésus, là, il ouvre littéralement son cœur. Et là, même les disciples disent, mais Seigneur, maître, tu ne parles même plus en parabole. Non, là, il ouvre son cœur. Comprenez bien, il leur dit, maintenant les gars, comprenez bien ce que je vais vous dire. Comprenez bien, c'est très important. Et il leur dit ce par quoi ils vont passer. Les épreuves, les tribulations. Il est très honnête et c'est vraiment un texte magnifique parce qu'on voit vraiment que Jésus ne cache rien. Il va dans les détails. Et dans Jean 16, 33, il dit, je vous dis ces choses, donc toutes ces choses, hein, donc dans les résumés, dans les chapitres avant. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Jésus a vaincu le monde. Alors le mot grec pour tribulation est thlipsis, qui peut être traduit par oppression, le fait d'être pressé, comme on presse un fruit, comme on presse un légume. Et nous avons tous vécu des situations un peu comme ça, n'est-ce pas ? On se sent oppressé de toutes parts, que ce soit au boulot, le boss qui nous met la pression, les collègues qui nous mettent la pression à l'école, les profs qui nous mettent la pression, peut-être dans nos familles aussi, on a la pression, que ce soit, t'es peut-être l'aîné, t'as la pression, t'es le dernier, t'as la pression, t'es au mieux, t'as la pression. Et ce monde aussi nous met la pression, n'est-ce pas ? Ce monde avec ses systèmes et ses valeurs qui sont à l'opposé des nôtres. Là où il prône le chaos, nous prenons la paix. Là où il met en avant l'impudicité et l'immoralité, comme style de vie normal et de plus en plus, n'est-ce pas ? Nous avons fait le choix de vivre dans la sanctification, comme tu l'as rappelé à la Sainte-Seine. Là où il y a la haine et le désarroi, nous apportons l'amour et la justice. Là où le monde nous pousse à chercher les biens matériels à tout prix, nous fixons nos regards sur les trésors célestes qui ne s'abîment pas. Amen. Amen. Ce monde est vraiment ténèbres et nous sommes lumière. Donc, nous sommes oppressés, n'est-ce pas ? Est-ce que Jésus veut dire à ses disciples, est-ce qu'il veut nous dire aussi à nous, Église du 21e siècle ? Ici, c'est que, comme je l'ai dit, nous n'y échappons pas. Mais que ces choses nous fassent comprendre qu'en lui seul se trouve la paix. En Jésus seul se trouve la paix. Et, car vous savez, tout ce qu'un homme a besoin en réalité, c'est la paix. La paix avec Dieu, parce qu'il est séparé de son Créateur par le péché. La paix avec Dieu, la paix avec les autres et la paix avec soi-même. N'est-ce pas ? Jésus. Et ce monde ne connaîtra pas la paix tant que le Prince de paix ne reviendra pas. On a des semblants de paix, etc., d'accord. Alors, je ne sais pas si vous suivez un peu la politique, mais nous avons deux présidents qui se livrent une guerre d'ego. Le président américain et le président nord-coréen, et ça fait peur. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'ils étaient prêts à discuter, mais tout ça, c'est des semblants de paix. La vraie paix viendra avec le prince de paix, le shalom de Dieu. Amen. Et cette paix que Jésus nous donne, elle surpasse toutes les épreuves, toutes les difficultés, tous les moments durs par lesquels on pourra passer en 2018. Alors Philippiens 4, 6 à 7, vous connaissez certainement ce verset, elle dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, moi, ce qui m'interpelle dans le passage de Jean 16, pour y revenir, c'est la dernière partie. Que dit Jésus ? Il dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Pourtant, n'est pas encore monté à la croix. Mais il savait que la victoire était certaine. Il savait dans quelle voie il marchait et pourquoi il était sur terre. Mais quel fut le chemin ensuite, quand, après cette déclaration? Parce que là, il déclare déjà sa victoire. Il dit, j'ai déjà triomphé, c'est déjà acquis. Mais qu'est-ce qui attend Jésus? La passion. La passion du Christ, comme on appelle. L'humiliation. La torture, la mort atroce. C'est ce qui attend ça avant de la victoire ultime. De même pour nous qui sommes en Christ, qui sommes nés de Dieu, nous marchons dans la victoire, comme je l'ai dit. Mais marcher dans la victoire ne veut pas dire... comme vous savez, avec une haie d'honneur, comme ça, avec « Ouais, bien joué, etc. » tout le temps. Non, c'est une marche où on a des épreuves, on reçoit des coups, on tombe, on se relève, par l'Esprit de Dieu en nous. Et j'aimerais lire Jean 5:4, qui dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Donc nous triomphons du monde. Nous avons ce pouvoir, cette autorité de triompher du monde, de cette oppression. Et en Christ, nous sommes vainqueurs. Donc ne nous laissons pas intimider, impressionner par parce que le monde peut nous dire ou dire de nous faire subir. Nous sommes plus que vainqueurs. Et il est vraiment temps que les enfants de Dieu réalisent encore plus cette réalité. J'entends souvent, et même moi ça m'arrive, d'être parfois défaitiste. Mais non, soyons conscients. Pas dans une attitude, pas en étant... c'est pas de la positivité, c'est une réalité. Nous sommes vainqueurs par Christ. Et je pense que beaucoup de choses se débloqueraient si on réalisait ça plus souvent dans nos vies, que nous sommes vainqueurs. Nous marchons dans cette victoire que Christ a permis à la croix. Amen. Amen. Vainqueur sur toutes les réalités de ce monde. Alors, en Christ, et ce que je nous souhaite aussi en 2018, c'est d'être vainqueur sur le péché. Vainqueur sur le péché. 1 Jean 1:7 dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. De tout péché. Une des attaques, vous savez, quand on est jeune converti, on a le feu, on a le zèle. Et l'ennemi aime, ça ne plaît pas à l'ennemi, n'est-ce pas? Et l'ennemi aime nous attaquer par toutes sortes de moyens. Et ce qu'il aime faire, c'est justement nous faire croire que nous sommes encore sous la loi du péché. Alors oui, nous péchons encore parce que nous sommes encore sur cette nature humaine. Vous voyez, et ça c'est tout à fait... c'est une réalité, n'est-ce pas? Mais la grâce de Dieu est là. Comme le verset dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et merci Seigneur pour sa grâce qui nous pardonne, qui nous justifie. Et nous n'avons rien mérité, nous n'avons rien demandé, mais sa grâce nous justifie, nous purifie. La Bible est remplie des récits des plus grands serviteurs de Dieu qui eux-mêmes ont été confrontés au péché. Mais en ont triomphé, n'est-ce pas? Prenons l'exemple. Moïse, Noé, David, Samuel, Pierre et bien d'autres serviteurs, nous les voyons. On fait face à leurs problèmes de péché. Par exemple, David. David, bon, évidemment, moi j'aime beaucoup le personnage de David. Je m'identifie beaucoup à lui, mais David. David a combattu la femme d'un autre, à un point où il a fait tuer le mari pour avoir cette femme. Et ça a mis en colère l'Éternel, n'est-ce pas? Il s'est repenti de tout son cœur, mais il a dû faire face à ce péché et se repentir devant l'Éternel. Pierre aussi, Pierre, ce disciple qui a par trois fois renié Jésus. Ou alors, dans d'autres cas, Job et Élie qui, eux, affrontèrent le découragement et la dépression, au point qu'ils voulaient même mourir. Mais ces hommes endurèrent et triomphèrent de leur pensée, de leur péché, au lieu d'être vaincus par eux. Et souvent, moi je travaille dans mon église, dans la jeunesse, et même en dehors, et souvent j'entends même les chrétiens qui se laissent en fait abattre par leur péché, croire que leur péché les définit. Non, tu peux fauter, tu peux chuter, mais ton identité, c'est que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu es en Christ, tu es caché en Christ, comme le verset le dit. Et c'est important de se le rappeler. Alors, car ces personnes, souvent, et ça revient souvent, c'est que ces personnes mettent le focus sur leur péché, sur leur condition de péché. Non, c'est sûr qu'il y a des péchés plus difficiles que d'autres à laisser tomber. Je connais des gens qui ont du mal, par exemple, avec la cigarette, d'autres c'est l'alcool, d'autres c'est, ça peut être la pornographie. Jésus veut nous dire que de regarder à lui-même dans nos situations compliquées, nous serons vainqueurs sur le péché, vainqueurs de ce qui nous ruine et qui nous souille. Car c'est pas un message populaire chez dans tous les milieux, mais c'est important de se rappeler que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Moi, ce qui m'interpelle, vous voyez la vision d'Isaïe, quand il dit qu'il se retrouve face au Seigneur de gloire, la première chose qu'il dit, c'est qu'il n'est pas digne de se trouver dans la présence de l'Éternel, et il déclare saint, saint, saint. La première chose qui émane de l'Éternel, c'est sa sainteté. Et on ne pourrait pas tenir dans sa sainteté si nous-mêmes ne sommes pas saints. Alors, nous n'attendrons jamais la perfection dans ce monde, c'est sûr. Mais marchons dans ce processus en nous laissant Christ nous aider à triompher du péché. Amen. Alors, j'aime beaucoup ce passage dans Hébreux 12, 1 qui dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et en ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Amen. Amen. Ayant les regards fixés sur Jésus, c'est la solution pour triompher du péché. Trop souvent, comme je l'ai dit, j'entends des gens qui se focalisent sur leur péché. Mais non, focalisons-nous sur Jésus. C'est par sa grâce et sa grâce seule que nous serons délivrés. Amen. Amen. Moi, j'ai, par exemple, mon papa, avant de devenir... mon papa s'est converti sur le tard. Ça dépend de votre conception de tard. Il s'est converti à 29 ans. Non, en fait, c'est jeune. Mais c'est parce que j'ai 25 ans. Pour moi, 29 ans, c'est... Mais ce fut radical. Il est passé d'une vie mondaine, donc habitué à sortir, à la cigarette, l'alcool, et il fumait régulièrement. Et une rencontre avec Jésus l'a délivré instantanément. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, évidemment, je ne vais pas faire généralité, pour certains ça met plus de temps que d'autres, mais On avait essayé de le faire arrêter par plusieurs sortes de moyens, on a rencontré des prêtres, etc., même des pasteurs. Mais c'est une rencontre avec Jésus qui a transformé, qui a bouleversé sa vie et qui a brisé les chaînes du péché dans sa vie. Amen. Qui a brisé l'emprise du péché dans sa vie. Et c'est important de le proclamer. On est dans un monde où de plus en plus les gens sont enchaînés. Même dans l'église, il y a des sujets dont on ne parle pas. J'ai un petit témoignage il y a 2 ans. Je suis passé par des moments assez compliqués dans ma vie. Et comme je vous dis, il y a des chemins que Dieu nous fait, par lesquels Dieu nous fait passer. On ne comprend pas toujours, mais c'est des chemins qui nous mènent, qui font partie de son plan. Comme je l'ai dit, par exemple, David, c'est le fils que son père ne considérait pas. Vous connaissez l'histoire. Le prophète vient, on dit, ok, monte-moi tes fils. Il monte ses fils, il dit, le prophète Samuel en lui-même. Il sent que non, c'est pas, il n'y a pas le futur roi. Il dit, mais il ne te reste pas, les fils. Et là, il se souvient qu'il y a un de ses fils qui est en train de garder les troupeaux. Donc David était déjà isolé, de base. Il triomphe contre Goliath. Le roi Saül veut le faire mourir. Encore une grande épreuve dans sa vie. Il a écrit des psaumes de grand ce moment-là. Il vivait dans les grottes. Il se cachait. Il est roi. Ensuite, durant son règne, son fils veut prendre son trône, son propre fils veut prendre son trône. Et là, on voit un David fébrile. Le grand roi David, il est fébrile. Il est abattu face à ce que son fils veut le faire. Mais je crois que c'est un chemin par lequel Dieu l'a fait passer, il lui a fait comprendre les choses. Et David est le personnage dont on parle le plus dans le Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Et on dit de lui que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, il y a des chemins, comme je disais, par lesquels Dieu nous fait passer. Et moi, je suis passé par un temps où je me cherchais beaucoup dans ce que je voulais faire. Je servais déjà Dieu dans l'église, mais je ne savais pas ce que Dieu voulait pour moi. Qu'est-ce que Dieu voulait? Pour faire court, je suis passé par un temps de dépression. Avant de passer par ce temps de dépression, je ne savais pas ce que c'était la dépression. J'entendais parler, mais j'avais une mauvaise conception de cela. Mais il a fallu que j'en parle, il a fallu que je me renseigne, il a fallu que j'affronte ma dépression. Et pourquoi je raconte cela? Parce que dans nos églises, beaucoup de gens font face à la dépression. Et souvent, j'en parlais encore avec ma mère, on n'ose pas en parler. On n'ose pas en parler, pourtant c'est des chaînes qui tiennent des gens captifs. Il y a des gens qui font des dépressions pendant 10 ans. Alors, face à cela, on a besoin, c'est urgent de prêcher Jésus, de prêcher que Jésus est vainqueur et qu'il peut briser toutes ces chaînes, amen, qu'il peut briser et nous rendre encore vainqueurs de tout cela. C'est important, c'est vraiment important. Et moi, ce qui m'a fait vraiment sortir de cette période noire, c'est vraiment de regarder à Jésus. Regarder à Jésus, je suis quelqu'un qui est assez têtu, je ne vais pas le cacher, qui aime combattre de lui-même et qui aime s'en sortir tout seul. Mais ce que Jésus veut, c'est qu'on se repose sur lui. Qu'on se repose sur lui, qu'on dit, Seigneur, ok, je m'abandonne en toi, je m'abandonne en toi, ce combat, c'est le tien. Amen. Donc, on puisse être vainqueur en 2018 sur le péché. Et que, aussi pour terminer, mon dernier point, c'est que on puisse être vainqueur sur nous-mêmes, sur notre vie. Qui ne s'est jamais trompé dans les décisions, dans des choix de vie? Je pense que c'est le cas de tout le monde, n'est-ce pas? C'est le cas de tout le monde. Et pourquoi j'aborde ce point, c'est que pour nous encourager en 2018 à suivre les plans de Dieu pour nos vies. Souvent, c'est un combat intérieur, dire, entre la volonté de Dieu et notre propre volonté, n'est-ce pas? Mais pourquoi pas choisir les plans de Dieu qui sont déjà bénis plutôt que de demander sans cesse qu'il bénisse nos plans? Et souvent, c'est la prière qu'on fait, Seigneur, bénis mes plans, Seigneur. C'est pas mauvais, mais choisissons plutôt de, de, de marcher dans les plans de Dieu pour nos vies. Seigneur, montre-moi les plans que tu as établis d'avance pour ma vie, les plans bénis d'avance. Alors, car ils sont les meilleurs. Prenons l'exemple de Jonas qui a essayé d'échapper au plan de Dieu pour sa vie. Ça s'est mal passé. Je pense que quand on veut échapper à la volonté de Dieu, ça se passe toujours mal. Alors cherchons en 2018 à vaincre notre ego, à nous abandonner en Jésus, à Jésus, en Jésus et pour Jésus, et afin de rentrer dans ses plans pour nos vies. Car ses plans sont joie, son bonheur, son paix. Et comme je l'ai dit, tout ce dont nous avons besoin, c'est la paix. La paix avec Dieu, la paix avec nous-mêmes et avec les autres. Et c'est tout ce que je nous souhaite pour 2018. Les bénédictions de Dieu. J'aimerais terminer en lisant ce passage. Dans le psaume 46. Alors, qu'on puisse déclarer vraiment ce verset dans l'adversité, dans les moments plus difficiles par lesquels on pourra passer. Dieu est pour nous un abri et un appui, un secours bien présent dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers, quand les eaux grondent, écument et font trembler les montagnes en se soulevant. Alors, au verset 12, il dit « Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. » Amen. Le Seigneur des armées est avec nous. Et donc, que ça puisse être imprimé sur nos cœurs, Dieu est notre repos, notre secours, notre rempart. Alors, je vais m'arrêter là et on va prendre, je pense, un petit temps de prière pour demander au Seigneur de nous aider à triompher, à demeurer, de continuer à marcher dans sa victoire pour nos vies en 2018. Je ne sais pas quelles sont les attentes de vos cœurs, quelles sont les résolutions que vous avez peut-être établies, qu'est-ce que vous souhaitez le plus. Sur quoi vous souhaitez triompher, peut-être c'est triompher d'une addiction, triompher d'une épreuve, triompher d'une maladie, triompher d'une situation. Mais dans toutes ces choses, Jésus veut nous dire que je veux vous rendre vainqueur pour ma gloire et pour votre bien aussi. Si souvent je vois des frères et des sœurs. Et je ne les blâme pas du tout, c'est tout à fait humain, qui marchent défaitistes dans leur vie chrétienne, qui pensent qu'ils enchaînent, que la vie chrétienne, c'est que le lot de souffrance. C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé, mais la vie chrétienne, c'est pas que ça. C'est vrai que c'est des épreuves, mais c'est aussi des victoires. Des victoires dans le nom de Jésus. Des victoires dans le nom de Jésus. Et rien que le fait que nous sommes ici, que nous sommes en Christ, que nous sommes enfants de Dieu, c'est déjà une grande victoire que nous avons expérimentée. Nous étions éloignés, loin de Dieu, mais voilà, par sa victoire à la croix, il nous a fait entrer dans cette vie de victoire. Et j'aimerais qu'on puisse, je ne sais pas si dans vos cœurs, dans vos vies, vous avez besoin d'un triomphe, d'une touche de Jésus. On va prier comme le chant l'a dit, on a besoin d'une touche de sa présence dans nos vies. Comme cette femme qui avait des paires de sang, qui a eu la foi, par la foi elle s'est approchée de lui et a touché. Pour cette nouvelle année, toi aussi tu veux toucher le pan de sa robe pour triompher de ce qui t'abat, de ce qui te ronge, de ce qui te fait souffrir. Triompher peut-être dans la vie de ta famille, ça va pas, c'est la guerre peut-être. Triompher dans la vie, le triomphe dans la vie de tes enfants, la victoire dans la vie de tes parents, la victoire dans la vie de ton conjoint. On va prier ensemble. Prions ensemble, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit de triomphe, ton esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. qui a vaincu la mort. Merci car cet esprit demeure en nous. Demeure en nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, nous voulons te plaire, nous voulons vivre cette vie de sanctification. Et s'il y a des choses, Seigneur, il y a des péchés qui nous tiennent encore captifs, Seigneur, nous voulons regarder à toi, regarder à ta grâce et nous en délaisser complètement. Tu es capable de délivrer. Tu sauves encore, tu délivres encore, tu restaures encore en 2018. Seigneur, ton sang est encore efficace. Ce que tu as accompli à la croix est encore efficace en 2018, Seigneur. Nous voulons vivre une année de triomphe, une année de victoire. Si 2017 a été une année d'échec, 2018 c'est une année de victoire. Une année où, si on tombe, on se relève. Et si on tombe deux fois, on se relève deux fois. On se relève encore et on triomphe et on rend gloire à Dieu. Seigneur, aide-nous. Aide ton Église à marcher dans cette vie de victoire. À demeurer conscient que tu as triomphé. Tu as triomphé. Seigneur Jésus, merci. Merci car nous savons que tu seras là et que tu es déjà là. Et que tu as établi tous nos jours pour cette année. Merci Père. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. Notre secours est en toi Seigneur. Nous levons nos yeux. Nous levons nos yeux vers toi. Toi seul Seigneur. Et la force de celui qui est faible. Le réconfort de celui qui pleure. Tu es l'oasis dans le désert. Seigneur, je vais te prier pour, particulièrement pour des cas de dépression. S'il y a des personnes ou des proches de personnes qui souffrent de dépression, je vais prendre autorité dans le nom de Jésus et briser ces chaînes. Ces chaînes qui lient de plus en plus de personnes ici, dans notre pays. Seigneur, tu vois ces gens qui sont tourmentés par le burn-out, par la dépression, mais nous voulons nous tenir, nous, en Église, et ne pas traiter ce sujet comme tabou. Seigneur, je veux prendre autorité dans le nom de Jésus, briser les chaînes de la dépression. Briser les chaînes des envies suicidaires dans le nom de Jésus. Seigneur, restaure leur joie, restaure leur joie de vivre. Seigneur, restaure-les complètement, Seigneur. Jésus, tu peux le faire. Tu le fais encore, Seigneur. Nous prenons autorité, Seigneur, cette autorité que tu nous donnes, nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous prenons autorité dans l'invisible, contre ces chaînes. Seigneur, délivre, interviens, Seigneur, en notre faveur. La parole déclare que quand le juste crie, l'Éternel entend et il arrache au danger. Seigneur, arrache, Seigneur, ces personnes qui souffreraient de dépression. Alléluia, Seigneur, tu es le médecin des médecins, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia. Et nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour notre province ici de Namur. Je ne peux pas venir ici et ne pas prier, Seigneur, en unité, Seigneur, avec mes frères et sœurs ici à Bois-de-Villers. Moi, j'emblouis, Seigneur, et ne pas penser à notre province de Namur, Seigneur. Seigneur, que des hommes et des femmes de Dieu continuent à se lever. Continue à briller pour toi, Seigneur, et que ton évangile, ta bonne nouvelle, soit répandue dans les cœurs, et que on puisse voir des transformations. Seigneur, je prie pour un réveil, Seigneur, dans la Belgique, mais nous prions pour notre province de Namur. Seigneur, tu as un projet. Nous prions pour nos collègues, nous prions pour nos frères, nos sœurs, nos amis, notre entourage, Seigneur, même ces personnes qui ne supportent pas, que nous ne supportons peut-être pas, Seigneur, aide-nous. Nous prions pour eux, Seigneur. Que ta lumière puisse briller, que les yeux puissent s'ouvrir, que la lumière soit, Seigneur. Que la lumière soit dans la vie, Seigneur. Dans la province de Namur, Seigneur. Seigneur Jésus. Et nous prions, Seigneur, que nous puissions être toujours plus à l'écoute de ton esprit. À l'écoute de ton esprit, que là où tu nous envoies, tu souhaites nous avoir, que nous aimes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour les réalités invisibles qu'on ne peut pas voir, mais que pour ton royaume qui continue d'avancer, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais juste terminer par un petit témoignage. Comme je disais, Dieu a des projets pour cette province et à la CJ. Je ne sais pas si Francisco, tu étais à l'atelier quand vous êtes sorti dans la mur. Ouais. Donc il y a des jeunes en fait à la convention de Genève qui sont sortis dans la mur pour aller évangéliser et ça a eu un très bon impact. Ils ont eu des moments forts, n'est-ce pas? Moment fort, vous avez pu prier pour les jeunes. Et quelques temps après, je me rends à l'église de Namur au TPE, à l'église temple protestant évangélique, où voilà, j'allais conduire la louange. Et là, il y a une jeune qui rentre. Et cette jeune, on l'a jamais vue, elle a 17 ans, elle vient toute seule. Et là, la femme du pasteur parle avec, etc. Et puis ensuite, elle vient vers moi, tout enthousiaste, etc. Mais tu sais pas quoi, je fais non. Tu vois cette jeune, etc. Ben, cette jeune-là, c'est une jeune qui a entendu parler de Jésus par les jeunes à la CJ quand ils sont sortis dans la ville. Et maintenant, elle est venue à l'église, etc. Et donc, tu dis waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et j'étais là, moi, je conduisais la louange. Et je la voyais, et pendant ce que je la louange, je la regardais et je priais pour elle. Je dis, Seigneur, on veut encore plus de témoignages comme ça. Et je pense qu'elle est encore revenue par la suite à l'église. Donc, ne nous décourageons pas de propager le message de Jésus. Il n'a eu besoin que de 12 disciples pour transformer le monde. Amen. Donc, certes, nous ne sommes pour l'instant que 26 églises dans le Namurois. Et je prie pour une multiplication d'églises, encore et encore, d'âmes sauvées, d'âmes... Mais ne regardons pas au nombre, car Dieu n'a besoin d'un seul homme pour transformer toute une nation. Donc soyons encouragés, que on prie pour vous aussi ici à l'église de Boisvillers, et on se serre les coudes entre nos miroirs. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Alors, voilà, si au travers cette prédication a pu vous toucher, au travers du chant que nous allons faire, eh bien, si vous voulez vous approcher pour recevoir la prière, vous pouvez le faire. David est là pour prier pour vous. Et nous allons nous mettre debout. Hein, rechanter ce chant, « Me voici à tes pieds ».« Me voici à tes pieds ». Pour te demander une touche de ta présence. Me voici à tes pieds. Pour te demander une touche de ta présence. Vois mon désir de te servir. Je te donne tout. Donne tous mes rêves. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Mon désir de te servir, je te donne tous mes rêves. Vois mon désir de te servir, je te donne tous mes rêves.
Amen. Et
Et me voici, Seigneur. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Guide-moi, conduis-moi dans tes voies. Montre-moi le chemin et je le suivrai. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté, j'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Envoie-moi où tu veux que je sois. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Amen. Merci David pour la prédication que tu nous as apportée. Merci pour les témoignages, Clémentine aussi et Francesco. Merci à chacun. Alors, dans les annonces, nous allons avoir bien sûr la semaine universelle de prière. Et nous commençons ici, à Pottevillers.